Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, bienvenue à tous à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Et dans cette première partie de l'émission, nous allons parler de comment promouvoir les droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Vous savez, le monde a célébré le 20 novembre dernier la convention relative aux droits de l'enfant. Et par cette convention, la communauté internationale reconnaît les enfants comme des êtres à part entière, porteurs des droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques. L'enfant a par exemple le droit à la vie, à l'éducation, à la protection contre l'esclavage, la torture, la maltraitance, etc. Alors, quelle est la situation de l'enfant en République démocratique du Congo et comment promouvoir ses droits? Alors, j'ai sur ce podium Dr Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Dr Pascal, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également sur ce podium M. Aimé Hadji, directeur des programmes au Bureau national catholique de l'enfance, BNCE. Aimé Hadji, bonjour.
Bonjour.
Alors, Dr Pascal Villeneuve, cette émission est organisée à l'occasion de la convention, la célébration de la convention relative aux droits de l'enfant et à l'occasion des 70 ans de l'UNICEF. Alors, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel cette convention a été élaborée?
Bonjour et ravi d'être ici ce matin pour parler des droits de l'enfant. Effectivement, cette convention relative aux droits de l'enfant est une convention qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Et c'est à ce jour la convention internationale la plus ratifiée dans le monde. C'est pour dire à quel point elle a eu un succès auprès de l'ensemble des nations.
Et quel était le but pour lequel les nations ont élaboré cette convention?
Alors, au préalable, il y avait un certain nombre d'instruments juridiques internationaux qui existaient et qui, effectivement, reconnaissaient un certain nombre de droits aux enfants. Mais je crois que l'objectif de cette initiative a été de réunir en un seul texte tous les textes existants et de faire un petit peu la synthèse de l'ensemble des droits reconnus aux enfants. La première de ces dispositions, d'ailleurs, étant de définir ce que l'on entend par un enfant. Je le rappelle, un enfant est tout individu âgé de moins de 18 ans. Donc il s'agissait d'apporter une définition et puis ensuite de décrire un petit peu de décliner l'ensemble des droits reconnus aux enfants.
Voilà, un enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. Alors, pouvez-vous nous présenter ces droits, les droits qui sont reconnus, les droits des enfants? Quels sont ces différents droits?
Alors, il y en a un ensemble que je pourrais regrouper en quatre catégories. Le premier, c'est le droit à l'identité. Chaque enfant a le droit à une identité. C'est pour cela qu'il est aussi important que chaque enfant soit enregistré à la naissance de telle sorte qu'il ait une existence au regard de la loi, de la société. Et puis ensuite il y a évidemment le droit à la survie, c'est-à-dire le droit ne pas mourir dans les premières années de la vie en raison d'un certain nombre de maladies, donc le droit à la survie. Si vous mourrez trop rapidement, évidemment, il n'est pas question de bénéficier ou de jouir de vos autres droits. Ensuite, il y a le droit au développement. Le droit au développement, c'est notamment le droit à l'éducation, mais aussi le droit à bénéficier d'une bonne nutrition, le droit de ne pas être malnutri, ce qui, évidemment, a un impact multiple à la fois au niveau individuel et au niveau de la société. et puis ensuite le droit à la protection, et ça, ça inclut un ensemble de droits qui ont trait à l'absence de discrimination, à l'absence d'exploitation, à l'absence de violence, etc.
Voilà. Nous avons, je me retourne vers notre deuxième invité, Monsieur Aimé Hadji, directeur de programme au Bureau national catholique de l'enfance. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que tous ces droits de l'enfant sont, disons, en RDC, ces droits sont garantis pour tous les enfants congolais?
Alors là, c'est une question difficile à répondre tout de suite là, parce qu'il faut des indicateurs qui puissent effectivement montrer que tous les droits sont respectés, mais du moins on peut aller palier par palier. Il faut dire que, par exemple, quand nous prenons les droits à l'éducation, et beaucoup d'efforts ont été entrepris, et notamment avec l'appui de l'UNICEF, par rapport à la scolarisation, et surtout aussi des filles, par rapport au genre, mais beaucoup reste encore à faire. Donc dans l'ensemble, il faut dresser un tableau par rapport au respect des droits de l'enfant. Je dirais que notre pays, quand même, même sur les plans normatifs, réglementaires, on a quand même des avancées significatives, mais beaucoup reste encore à faire.
Alors par rapport au droit à l'identité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Bon, par rapport au droit à l'identité, je crois que ce sont les fondamentaux par rapport au droit, c'est-à-dire que tout enfant a droit à une identité, et je crois que c'est les parents et les autorités qui doivent œuvrer dans le sens que l'enfant puisse avoir une identité. Cela est fondamental, parce que l'enfant doit se reconnaître, donc il faut que l'enfant puisse avoir une identité.
Oui, apparemment, il y a toujours des soucis par rapport à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Certains parents ne les font pas à temps, et après, il faut obtenir le jugement supplétif, ce qui n'est pas toujours facile.
Oui, disons que déjà, sur les plans législatifs, la loi quand même a essayé de porter du secours aux parents, parce que l'enregistrement par le passé, c'était 30 jours. La loi a ramené à 90 jours, c'est déjà... En termes des avancées, ça dit que ça peut aider les parents qui habitent très loin des services de l'état civil, dans les 3 mois, dans les 90 jours, à faire un effort. Aussi, l'enregistrement pour le moment est gratuit, et l'UNICEF avec les différents partenaires, dont le ministère de l'Intérieur, je crois, mène des actions dans ce sens en associant la société civile. Je crois que nous sommes sur la bonne voie.
Voilà, nous sommes sur la bonne voie. Monsieur Docteur Pascal, par rapport au droit à l'identité, l'UNICEF a soutenu la RDC pour l'enregistrement des enfants en l'état civil. Quel bilan pouvez-vous faire par rapport à cette opération?
Bon, je pense que il y a des progrès qui sont accomplis, mais évidemment le défi est important, puisque l'on estime à peu près à 25% le nombre d'enfants, le pourcentage des enfants de moins de 5 ans qui disposent d'un certificat de naissance. Alors, pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à l'enregistrement des enfants, il faudrait faire progresser cet indicateur de 25 à 100% dans les 15 années à venir. C'est donc un défi important. Il y a des efforts en cours. Je voudrais simplement indiquer que... en RDC, presque 80% des mamans accouchent dans une structure de santé. Et donc, à l'instar d'un certain nombre d'autres pays, il était possible d'utiliser ce premier contact avec une structure médicale pour enregistrer l'enfant, eh bien, en tout cas, en théorie, on pourrait faire passer ce chiffre de 25% à 80% assez rapidement. C'est là un petit peu le message principal que nous avons, que nous portons auprès des autorités, c'est que il faudrait faire en sorte d'exploiter au maximum ce premier contact entre la maman et une structure administrative au moment de la naissance.
Comment promouvoir les droits de l'enfant en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale Okapi Service, à l'occasion de 70 ans de l'UNICEF et de la célébration de la Convention relative aux droits de l'enfant. Aimé Hadji, pouvez-vous nous dire quelles sont les réalisations du Bureau national catholique de l'enfance par rapport à la protection des droits de l'enfant en RDC? Quelles sont vos réalisations?
Merci beaucoup. Il faut dire que le Bureau national catholique des enfants est partenaire de l'UNICEF. Et le Bureau national catholique des enfants se focalise plus sur les questions des enfants en conflit avec la loi et les enfants victimes d'abus. À ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi, et il faut dire que le Bureau national catholique de l'enfance, qui a remplacé le Bureau international qui a fermé depuis 2011, a contribué énormément dans la réforme de la loi portant protection de l'enfant. Et actuellement, nous sommes au niveau de Kinshasa, Kananga et Mbujimayi. Et ça fait 2 semaines au niveau de Kinshasa, au pavillon 10, où il y a des enfants en conflit avec la loi en détention. Le Bureau national catholique de l'enfance a essayé, dans le cadre d'amélioration des conditions de détention, apporter 60 lits et 60 matelas et 30 lits. Ce sont des lits en étage. Donc, ce qui fera 60 places. Et nous poursuivons dans cette même lancée pour voir comment améliorer les conditions des enfants en conflit avec la loi en détention, qui souvent sont en dépassement des délais. Et nous faisons en sorte que les juges puissent réviser les mesures pour que les enfants ne puissent pas traîner au niveau de la détention. Aussi, nous travaillons avec les autres acteurs, tels que les régions, surtout quand il y a des enfants qui sont arrêtés au niveau de la police, nous faisons les plaidoyers sous l'égide de l'UNICEF pour amener les autorités à prendre des mesures qui vont aider les enfants à ne pas être en détention pendant longtemps.
Comment promouvoir les droits de l'enfant en RDC? Nous sommes en direct de l'espace Bilembo à Kinshasa, à Gombe, et où se déroule d'ailleurs une exposition photo de l'UNICEF, 70 ans, organisée dans le cadre des 70 ans, 70e anniversaire de l'UNICEF. Visitez cette exposition à l'espace Bilembo tous les jours de 9h à 16h, sauf le lundi. Alors, y a-t-il des questions par rapport à la protection des droits de l'enfant? Juste faites-nous signe, on va vous donner les micros. Y a-t-il des questions par rapport à ce premier thème? Des questions dans l'auditoire? Voilà, Tati, de l'autre côté, il y a juste le nom et vous pouvez poser votre question.
Ok, merci pour la parole. Je m'appelle Carmen Domba, je suis jeune reporter de Kinshasa. Alors, premièrement, j'ai une remarque. Lorsque M. Pascal Villeneuve a décliné les différentes thématiques contenues dans la CDE, vous avez oublié une thématique très importante, celui à la participation des enfants. Je tiens à le rappeler parce que si les enfants sont présents aujourd'hui, c'est grâce à cette thématique, grâce à ce droit à la participation. Et c'est dans ce cadre-là, de la participation des enfants, que j'aurais préféré qu'il y ait un enfant sur le plateau, parce que c'est une... Le droit de l'enfant, c'est une question qui concerne premièrement les enfants. Alors j'aurais aimé qu'il y ait un enfant sur le plateau. C'est juste cette remarque-là que j'avais à faire. Et puis, une petite question à l'UNICEF.
Laquelle?
Par rapport à la protection de l'enfant. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons 8 communes dans lesquelles il y a un taux élevé de mariages précoces. Alors j'aimerais savoir, est-ce que l'UNICEF, dans sa politique de lutte contre le mariage d'enfants, est-ce qu'elle concentre plus des efforts dans ces communes ou c'est ces efforts sont un peu, je dirais, généralisés?
Bien, merci pour la préoccupation. D'autres questions?
Oui,
dans
Jody,
la salle?
Une autre question?
Oui.
Ok, c'est...
Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et donnez-nous votre nom.
Merci beaucoup, c'est Pistis Mbambi, un membre du club UFIM. Forum jeune pour les ODD.
Oui.
En fait, ma préoccupation part directement dans un constat. Aujourd'hui, à Kinshasa particulièrement, nous constatons un cas de délinquance juvénile à haut essor. Aujourd'hui, nous parlons de la protection de l'enfant, mais nous constatons que ces enfants-là, aujourd'hui, par une mauvaise protection, s'élancent dans des pratiques parfois bizarres, et cela ronge même la vie dans la société actuelle. Alors, quelles sont déjà les dispositions prises par l'UNICEF pour ces enfants, et qui œuvrent un peu dans ça? C'est un peu ça la préoccupation.
Merci. Une autre préoccupation dans la salle? Voilà, il n'y en a pas jusque-là. Monsieur Pascal, vous avez la parole.
Je vous remercie. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec notre ami jeune journaliste. D'ailleurs, la chaise, il y a une chaise libre ici, donc si vous voulez nous rejoindre, enfin, on ajoutera une autre chaise.
Voilà, on ajoutera
une autre chaise. Tout à fait. Sur la question du mariage des enfants, il s'agit d'un problème important. Puisque on estime à pratiquement un peu plus de 50% le nombre de filles de moins de 18 ans qui sont mariées. Et le mariage des enfants a de nombreuses implications négatives à la fois pour la maman, la jeune maman. Nous savons que les grossesses adolescentes sont particulièrement à risque. Le corps de l'adolescente n'est pas encore développé suffisamment pour pouvoir lui permettre de une grossesse normale dans beaucoup de cas.
Oui.
Nous savons par exemple que la mortalité maternelle est plus élevée parmi les adolescentes que chez les femmes plus âgées. Le danger existe, le risque existe également pour les enfants qui naissent de ces mamans adolescentes. Nous savons que la mortalité infantile est plus élevée parmi les enfants nés de filles adolescentes. Et puis, ces filles qui sont mariées, généralement, ne vont plus à l'école. Et donc, elles ont moins d'opportunités que les autres filles. Et d'une certaine manière, elles contribuent à pérenniser la pauvreté d'une génération à une autre. Il s'agit donc d'un problème important qui n'est pas spécifique au contexte urbain, évidemment. Il existe également au niveau rural. Et c'est un problème qui nécessite des partenariats complexe. L'UNICEF ne peut rien faire tout seul. Le gouvernement a un rôle, l'État a un rôle très important à jouer en matière de
la lutte contre le mariage
en matière
précoce,
de législation.
Oui.
Et puis les ONG, les organisations non gouvernementales, la société civile, les enfants eux-mêmes ont un rôle important à jouer pour dénoncer cette pratique et évidemment modifier la situation.
D'accord. Aimé, Adji, vous avez quelque chose à dire par rapport au mariage précoce?
Oui, il faut dire que, comme dit M. Christophe, la première responsabilité,
Pascal.
M. Pascal,
oui.
La première responsabilité revient à l'État. L'UNICEF, comme les autres organisations, viennent en appui à l'État. L'État qui doit jouer son rôle de premier rang. Et donc, il s'agit là des efforts conjugués de plusieurs acteurs, dont l'État, les organisations internationales, et celles de la société civile, et les enfants eux-mêmes, parce qu'on vient de parler de la participation. Aussi longtemps que les enfants ne dénoncent pas, il est donc difficile d'identifier ces pratiques-là.
Mais c'est tellement ancré dans la culture, et certains parents vous diront, non, c'est chez nous, c'est comme ça, c'est culturel. Alors comment arriver à faire sortir cela de leur tête?
Oui, s'il y a un effort de sensibilisation, bien sûr que ça va prendre beaucoup de temps, mais depuis, je crois, une dizaine d'années, je crois que les Congolais, de manière générale, ont commencé à dénoncer, parce que ce n'était pas facile par le passé de dénoncer, parce que ça ne fait pas partie de notre culture, parce que quand on dénonce, même avec les voisins, on peut avoir des relations déjà conflictuelles, mais je crois qu'il y a un effort qui a été fait grâce à surtout à ce que l'UNICEF est en train de prôner, les communautés protectrices, c'est-à-dire que les relais communautaires qui vont sensibiliser au niveau de leurs quartiers respectifs par rapport à la protection de l'enfant. Je crois que de plus en plus, il y a des cas d'abus qui sont dénoncés.
Bien, nous avons également sur ce plateau M. Ambroise Bakajika, chargé des communications, plaidoyer et participation des enfants et jeunes au RGR. Monsieur Ambroise Bakajika, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous de ce que vous faites pour les enfants, pour protéger les droits des enfants au niveau du RGR.
Au niveau de notre réseau, avec l'appui de l'UNICEF, nous avons mené plusieurs activités pour promouvoir la promotion des droits et la protection des droits des enfants. Nous organisons plusieurs activités sur la sensibilisation de la communauté pour que cette dernière prenne conscience pour lutter ensemble contre les maltraitances et abus qu'on constate au niveau de la société.
Et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Pouvez-vous nous donner des exemples précis?
Concrètement, nous avons organisé des séances de sensibilisation avec des pasteurs des églises de réveil en vulgarisant la loi portant protection de l'enfant. Nous avons organisé des séances de sensibilisation avec les communautés protectrices qui sont dans les communes de la ville-province de Kinshasa, et ça avec l'appui de l'UNICEF. À ces communautés, nous disons que la participation de l'enfant doit être une chose réelle, parce qu'il y a un adage qui dit « tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi ». Donc, commencer à initier l'enfant, c'est déjà lui donner, lui offrir toutes les chances pour la réussite et l'avancement de notre pays.
Bien, nous avons quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Adjouva nous a écrit depuis Kalemi. Il dit ceci: merci à l'UNICEF pour son appui aux enfants congolais, car leurs droits ne sont pas respectés dans notre pays. Malvin Saint-Couté, depuis Bukavu, nous dit ceci: mais pourquoi la loi ne s'applique pas, car les enfants sont jetés dans la rue et abandonnés dans les maternités? Docteur Pascal, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce dernier?
Vous savez, une chose est d'avoir une loi qui fixe une norme pour la société. Une autre, évidemment, est que cette loi soit appliquée dans la pratique. C'est un défi, je crois, qui existe dans tous les pays du monde, et la RDC ne fait pas
exception.
Voilà. Mm-hmm. L'arsenal juridique congolais est relativement complet en matière d'alignement avec les dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant, mais effectivement, dans la pratique, ces lois ne sont pas toujours respectées, souvent essentiellement pour des raisons de moyens, de ressources. Je crois que l'un des objectifs que nous poursuivons à l'UNICEF, c'est de renforcer les capacités de l'État congolais à se doter des moyens, des capacités pour une application effective de ces lois. C'est un objectif évidemment qui est un objectif plus ou moins facile en fonction des sujets que l'on traite. Mm-hmm. Je crois que pour revenir peut-être un peu à la question qui avait été posée précédemment sur la délinquance, je crois, si c'était ça un peu la question en milieu urbain, je crois que l'une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre l'exclusion, la délinquance, c'est l'éducation. C'est vraiment permettre à chaque enfant, où qu'il soit, quel que soit son niveau socio-économique, de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions, et ce jusqu'à un stade le plus avancé possible. Mmh. Évidemment, cela nécessite des structures, des moyens importants.
Alors, je reviens à vous, Monsieur Ambroise Duregère. Dites-nous, il y avait combien d'enfants dans les rues de Kinshasa, les enfants qu'on appelle Chegué? Alors, en collaboration avec l'UNICEF, combien d'enfants vous êtes arrivés à réinsérer dans leur famille aujourd'hui?
Merci. Nous pouvons d'abord dire que le recensement que nous avions réalisé avec l'appui de l'UNICEF depuis 2006 avait démontré qu'il y avait, au niveau de la ville-province de Kinshasa, 18 089 personnes, dont 13 871 mineurs.
Pour dans le les moment, rues, dans la rue.
Dans la rue de Kinshasa, depuis 2006. Et actuellement, les statistiques, les indicateurs de notre base de
données... Veuillez rapprocher votre micro, voilà, allez-y.
Les indicateurs de notre base de données... stipule que au niveau de la ville province de Kinshasa, il y a environ 20 431 enfants de la rue. À cela, il faut signaler qu'il y a déjà des générations dans la rue. Donc, il y a des enfants de la rue.
Avant, vous avez dit qu'il y avait 18 000, n'est-ce pas?
13 000, c'était en 2006.
Oui, aujourd'hui?
C'est déjà 20 431.
Donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu de progrès. On n'a pas pu réinsérer ces enfants dans...
Il y a un travail sérieux qui s'est fait au niveau de nos structures membres. Chaque année, il y a 3000 enfants qu'on réunifie dans leur famille. Mais vous conviendrez avec nous que chaque année aussi et chaque jour, il y a des enfants qui tombent dans les rues de Kinshasa. Donc, il y a au moins, il y avait 2 naissances par jour dans les rues de Kinshasa. Et les nouveaux venus dans les rues donnaient 6200 par an. Avec les efforts que nous sommes en train de faire, c'est déjà un ayant dit par ceux qui tombent. Donc, les efforts maintenant, comment faire? Comment faire pour fermer ce robinet de la honte qui est le phénomène enfant dit de la rue? C'est passer à la sensibilisation de la communauté pour que la protection de l'enfant soit une affaire de tous.
Voilà. Monsieur Aimé, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela?
Non, je voudrais revenir par rapport aux sanctions. J'ai vu un auditeur qui parlait de pourquoi on ne sanctionne pas. La loi a prévu, dans son article 190, le délaissement d'un enfant en un lien quelconque est puni d'un à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. La loi a prévu tout ça, mais... Comment saisir les instances judiciaires, ça c'est une autre paire de manches. Je crois que là encore nous devons travailler avec les autres organisations de la société civile pour aider. Mais il faut dire que la loi elle-même prévoit également, par exemple pour les familles en demi-ni, que l'État doit accorder des subsides, ce qui ne se fait pas parce que le facteur principal, la cause, c'est la pauvreté, la déstructuration des familles. Donc si on n'appuie pas les familles, je ne vois pas comment on peut réussir à cette mission.
Comment promouvoir les droits de l'enfant en République démocratique du Congo? Nous sommes en direct de l'espace Bilembo à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Et si vous êtes là, n'hésitez pas, vous êtes quelque part aux alentours, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Et nous rappelons qu'il se déroule une exposition photo de l'UNICEF 70, organisée dans le cadre du 70e anniversaire de l'UNICEF. Visitez cette exposition à l'espace Bilembo tous les jours, de 9h à 16h, sauf le lundi. Y a-t-il encore d'autres questions par rapport à la protection des droits de l'enfant? Voilà, rapprochez-vous, il y a un micro au milieu, vous pouvez passer et poser vos questions. Bonjour.
Bonjour, je suis Béli Loussala, jeune reporter de la ville de Kinshasa. J'aimerais juste poser une question, parce qu'on vient de parler des lois de la RDC, qui s'appliquent notamment ici à Kinshasa aussi. Mais j'aimerais savoir pourquoi parmi vous sur ces plateaux, n'y a-t-il pas un membre du gouvernement à qui nous aurions pu aussi poser nos questions par rapport à cette application des lois qui sont de la RDC. Merci.
Bien, merci. D'autres questions? Rapprochez-vous du micro, venez rapidement. Nous sommes à l'espace Bilembo. À Kinshasa, où nous parlons des droits, de la promotion des droits de l'enfant, il y aura un membre du gouvernement dans la deuxième partie de l'émission. Donc, vous aurez des réponses à toutes vos préoccupations. Bonjour. Pouvez vous présenter et nous donner rapidement votre question.
Merci. Je m'appelle Rosette Cagnère. Je suis avocate au barreau de Kinshasa à Gombe. Je suis venue un peu en retard, mais tout à l'heure, j'étais en train de suivre l'émission Les Chemins Faisants. J'ai suivi le délégué du bureau catholique de l'enfance qui disait que parmi leurs réalisations, ils ont octroyé au pavillon 10 de la prison centrale de Makala où sont hébergés les mineurs quelques lits. Je voulais aussi savoir, est-ce que vous êtes sûr que ces lits que vous octroyez aux mineurs servent vraiment aux mineurs? Parce que nous savons à la prison, quand il y a les enfants qui viennent, ils n'ont pas droit au logement. Et lorsque nous sommes sur terrain là à la prison, on parle avec les enfants, ils vous disent qu'ils ne dorment pas. Donc toute la nuit, ils sont soumis à des travaux forcés. Qu'est-ce que le bureau catholique fait pour vraiment faire les suivis et savoir est-ce que réellement les enfants qui sont hébergés au pavillon 10 de la prison centrale de Makala dorment, parce que quand ils sont internés là-bas, ce n'est pas qu'ils ont perdu tous leurs droits. Merci.
Bien, merci pour toutes ces questions. Monsieur Aimé, vous avez la parole.
Merci, je suis très flatté par la question. Et je voudrais d'abord porter à la connaissance du public ici, qui est de l'auditoire. Et en amenant des lits là-bas, nous on se conforme aussi aux normes internationales, c'est-à-dire qu'il y a des standards internationaux en termes de conditions de détention et des enfants et des adultes. Et comme la situation était très catastrophique, les enfants dorment à même les sols. Nous, en tant qu'organisation de protection de l'enfant qui œuvre au niveau du pavillon 10, nous ne pouvons ne pas faire quelque chose. C'est comme cela qu'avec notre partenaire de Caritas Allemande, on a essayé d'appuyer, mais déjà, à moins qu'il y ait, je crois qu'il y a, dans sa question, il y a beaucoup de choses, peut-être c'est complexe, mais déjà, d'emblée, il faut dire que les pavillons 10 sont réservés exclusivement pour les enfants de moins de 10 ans.
Mais pourquoi il n'y a pas assez de lits dans ces pavillons?
Bon, les pavillons, c'est l'État qui gère. Hein? Je crois que les pavillons ont été conçus pour accueillir 75 personnes. Actuellement, on a plus de 200 enfants en détention là-bas, donc il y a surpopulation.
Donc, plus de là, 200 enfants en détention.
Plus de 200 enfants en détention. Donc on est déjà en deçà des normes internationales, mais donc, par rapport à la capacité d'accueil. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, nous on ne remplace pas tellement l'État, on vient en appui. Et il y a aussi un effort à faire avec les différents tribunaux pour enfants pour désengorger les pavillons 10, parce que et selon nos analyses, il y a des personnes qui sont placées là-bas qui ne sont pas forcément des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 18 ans. Là, c'est un effort à faire au niveau des acteurs de la société civile et au niveau du gouvernement qui nous écoute. Donc, beaucoup de personnes qui sont au pavillon 10 ne sont pas des enfants de moins de 18 ans, donc elles doivent quitter là-bas. Et donc, la loi elle-même entretient cela, parce que quand la personne se présente devant les juges, les juges pour enfants, la loi dit que les doutes profitent à l'accusé. Donc si la personne dit qu'elle a 17 ans, les juges ne peuvent rien faire. Il faut des examens spéciaux, spécifiques, oui, pour déterminer l'âge. On a des problèmes de détermination de l'âge, ce qui fait qu'on a encore des problèmes au niveau du pavillon 10, mais je crois que les acteurs, nous faisons quand même un effort pour, dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention.
Docteur Pascal, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, la détention des enfants qui dorment dans des conditions difficiles, hein, même les sols?
Bon, évidemment, ce n'est pas des conditions dignes et conformes à l'un des principes de base de la Convention, qui est d'assurer que tout enfant a droit à la dignité, d'ailleurs tout le monde, que ce soit un enfant ou un adulte, tout être humain a droit à la dignité. Et je pense que dans ce cas précis, on s'en écarte. Je pense qu'en matière de justice juvénile, la première des choses à faire, c'est d'éviter que les enfants rentrent en conflit avec la loi. Je reviens à le premier principe, qui est en luttant contre la pauvreté, l'exclusion, en favorisant l'éducation, on va éviter que, à un moment donné, un enfant deviennent délinquants et rentrent en conflit avec la loi. Je crois qu'il y a la question de la justice a trait aussi à la justice juvénile. Là, il y a des efforts en cours pour doter chaque province de tribunaux spécialisés pour les enfants. Comme l'a dit le collègue, de s'assurer que en matière de détention, tout soit fait pour éviter que les enfants soient mêlés avec les adultes.
Bien, merci à tous les internautes qui nous écrivent sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Moukeba Gentil nous a écrit depuis Kananga. Il dit, c'est vrai que cela soit ratifié. Il parle de la convention, évidemment. Mais il faut tenir compte du bien-être du droit de l'enfant congolais. Placide Moutale Ambujimai, merci à l'UNICEF pour son travail. Mais le gouvernement doit faire aussi le sien. Le mariage précoce des filles mineures est une réalité ici. Les filles sont bien prêtes pour le mariage. À 14 ans, elles sont déjà préparées pour ça. Il faut la sensibilisation à tous les niveaux. Et Christian Kalombo nous écrit depuis Lubumbashi. Il dit l'UNICEF fait déjà du bon travail, mais le gouvernement ou le ministère de la protection des enfants doit faire aussi le sien. On n'a pas besoin que de beaux discours lors des journées de l'enfant. Nous voulons réellement qu'on protège nos enfants qui sont l'avenir de demain. Docteur Pascal, qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qui doit être fait pour que les droits de l'enfant soient promus en RDC et soient protégés en République démocratique du Congo?
Bien, je voudrais tout d'abord revenir sur un des commentaires qui a été fait, que les jeunes filles sont prêtes à 14 ans.
Oui.
Pour
le mariage.
Pour le mariage. Non, c'est faux. D'abord, la loi congolaise fixe comme âge limite au mariage l'âge de 18 ans. D'accord ? Donc, d'un point de vue légal, tout mariage se situant en deçà est un mariage illégal. Ensuite, au plan du développement, comme je le disais tout à l'heure, une jeune fille de 14 ans, de 15 ans, ni de 16 ans, n'est prête pour une grossesse, et certainement pas pour des grossesses répétées. Le corps de l'adolescente est en développement, et je pense que c'est important de ne pas minimiser l'importance de l'adolescence en tant que phénomène de transition entre l'enfant et l'adulte. L'adolescence est une phase qui n'est pas toujours suffisamment connue et reconnue comme une phase indispensable au développement de l'être humain, et on a tendance à aller trop vite. D'accord ? Mmh. On a tendance à considérer qu'un enfant de 14 ans, 15 ans est déjà quasiment un adulte. Non, une jeune fille de 15 ans n'est pas prête à assumer une grossesse de la même manière qu'une femme de 25 ans pourrait l'être.
Bien, je vais revenir à ma question tout à l'heure. Des questions dans l'auditoire ? Des questions par rapport à ces thèmes, les droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Nous rappelons qu'il se tient à une exposition photo UNICEF 70 organisée dans le cadre du 70e anniversaire de l'UNICEF. Visitez cette exposition à l'espace Bilembo tous les jours de 9h à 16h sauf le lundi. Alors je reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir les droits de l'enfant en République démocratique du Congo ? Par rapport au chemin parcouru,
qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord une volonté politique, hein, évidemment. Ensuite, il faut savoir où l'on se situe au niveau de chacun de ses droits. Il faut donc avoir disposé de données statistiques suffisamment fiables pour permettre de dire, oui, voilà, en ce moment, nous nous situons à tel niveau et nous devons progresser vers un autre niveau. L'objectif est fixé, c'est celui des objectifs de développement durable qui d'ailleurs concerne un très grand nombre des droits de l'enfant. Donc cela c'est rassurant, c'est important de voir que la communauté internationale n'a pas oublié les enfants lorsqu'elle a fixé les prochains objectifs de développement au niveau international. Et ensuite, évidemment, il faut avoir des moyens. Comme je le disais tout à l'heure, garantir à chaque enfant le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection, tout cela nécessite d'avoir des politiques appropriées, mais aussi de disposer des moyens. Et je crois que dans un contexte où la RDC est encore un pays à revenus bas, Il est nécessaire de, d'une part, d'utiliser les ressources de façon judicieuse et deuxièmement, de, à travers des partenariats, de réunir autour de la table les moyens, les ressources nécessaires pour faire, pour améliorer ces indicateurs.
Bien, en attendant qu'il y ait d'autres questions dans l'auditoire, Monsieur Ambroise Bakajika du Réger, alors dites-nous, qu'est-ce qui doit être fait? Vous parlez aujourd'hui de 20 000 enfants dans les rues de Kinshasa, et qu'est-ce qu'il faut faire pour tirer ces enfants de la rue et les réinsérer dans leurs familles respectives?
Merci. Les 20 431 enfants qui sont dans la ville-province de Kinshasa, c'est énorme. C'est un cri d'alarme, un SOS que nous lançons pour que tout un chacun fasse des efforts pour que la protection de l'enfant soit l'affaire de tout un chacun de nous tous. Nous allons, avec l'appui de différents partenaires et en particulier avec l'appui de l'UNICEF, nous menons des actions concrètes pour que ces enfants soient pris de la rue, transite par le centre d'hébergement transitoire pour leur réhabilitation psychologique, faire des enquêtes pour la réunification familiale.
Mais il y a des familles où on ne les accepte plus. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces enfants sont des sorciers, ils ont mangé telle personne, ils ont, entre guillemets, mais on les accepte plus. Le phénomène des enfants sorciers.
La loi est claire là-dessus. L'article 160 de la loi portant protection de l'enfant stipule que quiconque taxe de l'enfant, qu'il est sorcier, est punissable. Donc il doit faire la prison et il doit aussi payer une amende. Alors, nul n'a le droit de dire que cet enfant est sorcier parce que la sorcellerie n'a pas de preuve. Qui peut prouver que celui-là est sorcier? Personne ne peut le prouver, donc c'est une stigmatisation, c'est une fuite à l'avant des adultes pour se débarrasser des enfants.
Bien, nous allons écouter M. Gilbert Lusamba, il est chef de bureau au ministère du Genre, Famille et Enfants. M. Gilbert, bonjour.
Bonjour, je suis chef de division, s'il vous plaît.
D'accord, chef de division. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Je suis très content de voir qu'en cette journée où nous célébrons les 70 ans de l'UNICEF, que heureusement un enfant reporter s'est inquiété de le fait que le Radio Okapi n'est pas directement associé à quelqu'un qui puisse parler au nom du gouvernement. Et c'est vrai que les gens puissent se demander qu'est-ce que le gouvernement fait. Tout ce que fait le partenaire UNICEF, il le fait dans le cadre d'un programme conclu entre le gouvernement congolais et l'UNICEF. Donc ne pensez pas que ce sont des actions qui sortent de la volonté du gouvernement à venir en appui à tout ce qui est...
Ça se fait toujours en collaboration.
En collaboration avec le gouvernement.
Bien sûr.
Et je vous dirais que par rapport à la question du mariage précoce, le gouvernement est en train d'exécuter, avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires, une campagne, d'ailleurs dirigée par l'Union africaine, pour mettre fin au mariage d'enfants. Et présentement, il y a un plan d'action qui est en train d'être élaboré, coordonné par le ministère de la Femme, Famille et Enfants. Incessamment là, on pourra voir les grandes lignes du plan d'action pour que cela puisse être mis en œuvre dans toutes les provinces de la RDC.
Qu'est-ce qui est fait par exemple pour le cas des enfants qui sont dans la rue? On parle de 20 000 enfants dans la rue, dans les rues de Kinshasa aujourd'hui. Qu'est-ce que le ministère fait? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour les tirer de là, pour les sortir de là?
Je reviendrai à ce que je disais, même ce que le Réger a dit, c'est encore un bras du gouvernement. Et même avec le gouvernement français, avec l'appui de la Banque mondiale, il y a eu dernièrement un projet qui a visé d'appuyer les enfants et orphelins et autres vulnérables qui a été exécuté par le ministère des Affaires sociales. Et beaucoup d'enfants ont bénéficié de l'appui pour qu'ils puissent quitter ce milieu et puissent être objet d'une médiation afin d'intégrer les familles, soit biologiques, soit les familles d'accueil. Donc un travail de fond est en train d'être fait. Et comme le monsieur Duréger venait de le dire, il y a des enfants qui sont retirés de la rue et aussitôt d'autres rentrent. Donc c'est une politique de fond qu'il faut continuer. Ce n'est pas un processus à déterminer pour sa fin à un moment déterminé.
D'accord. Merci, M. Gilbert, pour cette participation. M. Aimé Hadji, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela?
Par rapport au phénomène enfants dits de la rue.
Oui, oui. Comment arriver à sortir ces enfants de la rue aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir de plus en plus les droits des enfants à RDC?
Bon, je crois que les actions doivent être menées dans toutes les directions. D'abord au niveau de l'État lui-même, qui a la première responsabilité. Mais il faut dire aussi, je voudrais mettre un accent particulier au niveau des familles, parce que les familles aussi, les parents doivent jouer leur rôle. Je crois que l'endroit par excellence où l'enfant peut s'épanouir, c'est la famille. Et là également, il faut que les relais communautaires puissent davantage sensibiliser les familles. Nous, par exemple, au Bureau national catholique de l'enfance, il y a une approche que nous appelons la résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité à résister malgré les difficultés. Je crois que la pauvreté est accrue à Kinshasa, mais tous les enfants ne se retrouvent pas dans la rue. Il y a des familles qui ont la capacité de faire en sorte que les enfants soient
retenus. Même si ces enfants ne se retrouvent pas dans la rue, mais il y a des enfants aujourd'hui qui travaillent. Nous avons le phénomène des enfants, vous les voyez, au lieu d'aller à l'école, ils sont en train de vendre des paquets de cigarettes ou ils vendent des bonbons et des biscuits, et d'autres qui se retrouvent dans les carrières, dans les mines, dans certaines provinces de l'Est.
Oui, je suis d'accord avec vous. Quand l'État, par exemple, dit que l'enseignement primaire est fondamental et gratuit, mais dans la pratique, ça c'est le rôle de l'État. Donc ensuite, quand les parents n'ont pas suffisamment de moyens, par exemple avec les projets les projets financés par la Banque mondiale, nous par exemple au niveau du Bureau national catholique de l'enfance, nous avions relevé le fait que c'est bon d'envoyer les enfants à l'école, mais après les projets, après 2 ans, les enfants vont rester vont rentrer en famille, ils ne vont plus étudier. Donc il faut prévoir comment appuyer les familles, par exemple avec les développements des activités génératrices de revenus, parce qu'il faut accroître les ressources des ménages. Et c'est ce que dans la pratique, ça ne se fait pas.
Bien, nous avons également dans cette salle monsieur un avocat, Moussoulouku, avocat près de la cour d'appel de Gombe, juge assumé de 2011 à 2013 au tout premier tribunal pour enfants. Monsieur Moussoulouku, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau pour la protection des droits de l'enfant en République démocratique du Congo?
Oui, merci. Vous savez que une loi non accompagnée d'une sanction effective est une lettre morte. Thomas Hobbes a analysé le comportement de l'homme autant que d'autres psychologues, pédopsychiatres, etc. et a conclu que l'homme à l'état de nature est une brute, c'est-à-dire une bête. Or, la société des bêtes s'appelle la jungle, c'est-à-dire une société sans foi, ni loi, ni roi.
Sommes-nous dans une société des bêtes ou pas?
Non, nous sommes dans une société...
Allez-y.
Nous sommes dans une société des humains. La distance entre l'homme et la bête, c'est justement la ratio, la raison. C'est ainsi que... Évoquant Emmanuel Kant, qui est né en 1724 et décédé en 1804, il dit que tout être humain s'assujettit à 2 types de règles. Les règles autonomes et les règles hétéronomes.
D'accord, ce sont des belles théories. Alors qu'est-ce qui a été fait par rapport à la protection des droits des
alors,
enfants?
Alors lorsque notre République démocratique du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et a mis en place la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, il a été installé d'abord créé les tribunaux pour enfants et la première opérationnalisation a eu lieu le 29 avril 2011 avec l'expérimentation à partir de la commune de Ndjili, le tribunal pour enfants de Kinshasa, c'est ainsi qu'on l'a dénommé. C'était pour la mise en œuvre judiciaire et en même temps la protection sociale et pénale des droits de l'enfant. Parce que on peut élaborer et dicter des normes, le plus important c'est de pouvoir les faire respecter. Or, c'est la sanction qui contribue à la reconnaissance de la règle de droit. C'est ainsi que les tribunaux pour enfants ont été installés au fur et à mesure. La toute première expérimentation est partie de 2011 à 2013 avec le président Dodé Mputu Ilwa. C'est quelqu'un qui a eu la grâce de pouvoir se spécialiser en vertu de l'article 88 de la loi portant protection de l'enfant à Grenoble et puis au CAFES.
Alors, dites-nous, qu'est-ce qui reste à faire pour que les droits des enfants, de l'enfant soient garantis dans notre pays?
Pour que les droits de l'enfant soient garantis. J'insiste sur la sanction, parce que c'est ça. Quand on parle du tribunal, on voit le droit. Et quand on voit la règle de droit, il y a la sanction qu'il ne faut pas négliger pour faire respecter justement ces règles. Le tribunal pour enfants a besoin des magistrats spécialisés, comme le dit l'article 88. Des magistrats spécialisés, pas amateurs, pas généralistes. Alors vous voyez que la protection efficace de l'enfant passe par la formation de ceux qui sont chargés de dire le droit, c'est-à-dire de vider les litiges qui concernent l'enfant. C'est ça le problème que nous avons, parce qu'il y a risque d'avoir affaire à des jurisprudences contradictoires.
D'accord,
et
merci.
Ça, il faut éviter.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Moussoulouko. Il est avocat. Merci de votre intervention. Nous allons suivre maintenant le groupe de l'INAS, de l'Institut National des Arts et Spectacles. Et ils ont composé, ils ont des chansons par rapport à la protection des droits de l'enfant. Donc, si le groupe est prêt, il pourra exécuter un morceau et puis on va clôturer cette première partie de l'émission pour nous retrouver dans la deuxième partie. Et les thèmes qui sera abordé, nous allons parler de 70 ans de l'UNICEF, bilan et perspective en République démocratique du Congo. Et nous aurons sur ce plateau Dr Pascal, donc il est notre invité permanent aujourd'hui, Dr Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en RDC. Et nous allons également accueillir Monsieur Malaba Mouyandji, directeur, chef des services et secrétaire général AI au ministère de la Santé publique. C'est parti avec le groupe de l'INAS.
En défense. Dieu, c'est ça, man. C'est ça, man. Je sais qu'il y a des élèves ici. Dieu, de nature, l'homme n'aime pas le mal. L'homme aime la paix. L'homme sage aime son pays et l'homme en supplie devant son pays. Ce qui se passe dans notre vie est insupportable. Des choses qu'on fait resteront toujours inacceptables. Tu n'es pas méchant, tu resteras toujours gentil. S'il était méchant, mais t'es déjà mort quand tu cherches à mentir. Dans cette vie pitoyable, va faire la marche arrière. Et je vais dire que le petit ruisseau fend de grandes rivières. Les petits profits accumulés finissent par des gros bénéfices. Ma mère m'avait bien interdit, faut pas chercher le maléfice. Dans cette vie dangereuse, faut pas être en avare. Sans blague ici au Congo, on est rapport de Bardio. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Wow! Joe! Chaque fois toi, je t'ai dit d'étudier pour préparer ton avenir. Mais on prie Dieu parce qu'un jour, il fait revenir. Maintenant, j'arrive, la victoire, tu peux plus l'obtenir. Je suis joyeux parce qu'il est mort, j'ai des souvenirs.